Le journal du soir avec vous, Sarah Massy. Bonsoir.
Bonsoir. Se rafraîchir dans le lac de Neuchâtel, une option qui n'est pas possible dans l'immédiat. Le lac reste interdit à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Le temps pour les autorités de procéder à une analyse des eaux. Le contournement routier est de la Chaux-de-Fonds est mis à mal. Le référendum contre le projet a abouti, selon ses auteurs, et les recours peuvent encore fleurir. Les cas de Covid sont en hausse en Suisse. Les experts de la Confédération n'excluent pas une quatrième vague d'ampleur supérieure à celle de l'automne dernier. Nuit étoilée en perspective, la journée de demain est à nouveau placée sous le signe du soleil et de la chaleur. Neuchâtel-Xamax n'entamera pas sa saison de Challenge League de football vendredi à la Maladière. Le club rouge et noir devait accueillir Arrow en ouverture de championnat. Ce match est reporté à une date ultérieure. Ce renvoi n'est pas lié à la crise sanitaire, mais aux récentes crues qui ont notamment conduit à l'inondation volontaire du parking de la Maladière. Et malgré le beau temps, il faudra encore garder ses distances avec le lac de Neuchâtel. La baignade reste interdite. La qualité des eaux n'est pour le moment pas assurée pour piquer une tête sans danger. Les précisions de Léo Tichelli.
Les nageurs vont devoir s'armer de patience ces prochains jours. L'accès aux plages reste dangereux pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Une partie des eaux usées est susceptible de s'être déversée directement dans les lacs sans passer par les stations d'épuration. Les autorités ont prélevé des échantillons. Elles procèdent actuellement à leur analyse. Les résultats définitifs devraient tomber cette semaine. Ils permettront de déterminer si la baignade reste interdite ou simplement non recommandée. En attendant, les nageurs sont priés de rester au sec. Autre danger, les sols gorgés d'eau menacent la stabilité de certains arbres qui pourraient se déraciner et tomber. La population doit donc rester prudente aux abords des lacs, notamment dans la zone des jeunes rives.
La décrue des lacs s'amorce doucement. Elle risque de prendre du temps. Il faudra entre 3 et 4 semaines pour revenir à des niveaux proches des normales de la saison. La patience est donc aussi de mise du côté du lac de Bienne. Avec l'eau qui stagne à un niveau élevé, impossible pour les pompiers d'intervenir pour l'instant dans certaines zones. Une situation difficile à vivre pour les habitants sinistrés. Le responsable de l'organe de conduite de la région de Bienne en est bien conscient, Hans Ruedi.
C'est pas qu'on ne veuille pas, c'est que pour le moment on ne peut pas. Mais je suis tout à fait conscient que les personnes qui sont touchées depuis des jours maintenant se demandent vraiment pourquoi on ne peut pas intervenir, mais on essaie vraiment de l'expliquer par notre infoline, par les explications, aussi par la communication que vous relayez, les médias. Et voilà, c'est un peu la phase d'explication, de préparation, de pouvoir, dès que c'est possible, de pouvoir apporter l'aide.
Vous dites « on ne peut pas », il y a notamment cette question du pompage. Hein.
Tout à fait, donc c'est cette situation de pression de l'eau qui se trouve dans le sol. C'est pratiquement une inondation qui vient du sol, alors que ce n'est pas une inondation de surface. Donc pour le moment, il fait beau, il y a le niveau du lac un peu baissé. Ce n'est pas évident à expliquer, mais voilà, il y a aussi une question de stabilité des bâtiments. Par exemple, si un sous-sol est inondé, il y a tellement de pression sur les parois latérales et sur le sol depuis dessous que si on enlève l'eau, ça peut créer de plus gros dégâts que si pour le moment on la laisse.
Des propos recueillis par Olivier Zano. Le Val de Travers a connu une coupure de courant cet après-midi. Groupé annonce que 3800 clients du Vallon ont été privés d'électricité durant plus d'une heure, vers 14h40, en raison d'un problème survenu au poste de transformation de Travers. Environ 80 habitations dans le secteur des Sagnettes restent pour leur concerner. Des techniciens s'activent sur place pour rétablir la situation. Une démarche couronnée de succès pour le comité référendaire qui s'oppose au contournement routier est de la Chaux-de-Fonds. Les sections neuchâteloises de Solidarité, de la Grève pour le Climat, des Jeunes Verts et de Greenpeace annoncent qu'elles déposeront les signatures nécessaires, soit plus de 4500, jeudi à la chancellerie d'État. Pour les référendaires, le projet ne permettra pas d'atteindre le but fixé, soit de désengorger le centre de la métropole horlogère. Le contournement est pourtant largement attendu par les chaudefonniers. Chloé Dutoit, coprésidente des Jeunes Verts.
Je les comprends. J'ai moi-même habité longtemps à Chaux-de-Fonds et c'est vrai qu'au niveau trafic, c'est assez horrible. Néanmoins, ce n'est pas en construisant une nouvelle infrastructure uniquement dédiée au trafic motorisé individuel qu'on va parvenir à un centre-ville qui sera réellement désengorgé. Pour désengorger un centre-ville, pour favoriser la mobilité douce, collective, il faut vraiment mettre les moyens dans des infrastructures et lier réellement à cette mobilité douce, donc avec une densification, une augmentation de la cadence des transports publics, des moyens mis dans la mobilité collective, le covoiturage ou des systèmes de type mobility, mais aucunement dans de nouvelles routes et de nouvelles infrastructures uniquement dédiées aux voitures.
Le comité référendaire déposera également une motion populaire jeudi à la chancellerie d'État. Ce texte demande que la part cantonale de 73 millions de francs prévue pour le projet de contournement soit attribuée à des projets de mobilité collective dans le haut du canton. De son côté, le conseil d'État neuchâtelois regrette que ce référendum fasse perdre du retard au projet de contournement. Un projet qui garde toute sa pertinence pour le conseiller d'État en charge du dossier, Laurent Favre.
Bien, le Conseil d'État prend de ce référendum. Il reste très convaincu de l'importance et de la qualité du projet de contournement est de la Chaux-de-Fonds par la H18 avec un soutien de la Confédération, ce qui permettra de renforcer l'attractivité résidentielle et commerciale du centre-ville de la Chaux-de-Fonds, comme on va le faire maintenant du côté du Locle aussi avec son contournement. On constate aussi que la ville de la Chaux-de-Fonds très largement, tout comme les partis politiques et même la TE soutiennent le projet. Donc on est convaincu que le projet est fort et obtiendra dans quelques mois le soutien de la population pour encore une fois renforcer la qualité de vie, la qualité de la ville de la Chaux-de-Fonds.
Ce projet de contournement est de la Chaux-de-Fonds est attaqué sur plusieurs fronts. En plus du référendum, des oppositions ont aussi été déposées. Leur analyse est toutefois bloquée par un recours au tribunal fédéral. Les opposants demandent la récusation d'un collaborateur de l'État dans ce dossier, accusé d'être juge et parti. Le référendum ouvre aussi de nouvelles perspectives de recours, selon Frédéric Hénard, mandataire de recourants et d'opposants.
Le peuple devra déjà se déterminer quant au fait de savoir si 200 millions de francs, c'est adéquat en relation avec quelques 6 000 véhicules. Si le peuple accepte le projet du Conseil d'État, alors un certain nombre d'autres personnes, qui ne sont pas les opposants, ni même les électeurs neuchâtelois, pourront déposer directement devant le tribunal fédéral un recours parce que le Grand Conseil a lié le projet d'évitement routier H18 au plan directeur partiel des mobilités de la ville de la Chaux-de-Fonds. En d'autres termes, le Grand Conseil a considéré, à juste titre, que l'évitement de la Chaux-de-Fonds devait être lié avec des restrictions du trafic à l'interne de la ville de la Chaux-de-Fonds. Et cette liaison-là permet à un certain nombre de propriétaires, par exemple, qui vont voir le nombre de véhicules passer devant leur maison passer de 4 000 à 20 000, de dire au tribunal fédéral, n'est-ce pas une idiotie pour 6 000 véhicules d'en voir près de 20 000 passer devant ma maison. Et ça, c'est un recours particulier qui peut être déposé que si le référendum n'aboutissait pas ou si le référendum aboutit, ce qui est le cas, que uniquement après la votation populaire. Vous voyez que le chemin est encore long pour voir les projets grandiloquents du Conseil d'État aboutir.
Le Conseil d'État qui table sur une mise en service du contournement est de la Chaux-de-Fonds en 2026. Rebond dans l'exportation horlogère en Suisse, le secteur accélère son redressement dans un contexte toujours marqué par la pandémie. Une année après la reprise des exportations, les chiffres sont plus que positifs selon un rapport de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, Clotilde Loup.
C'est exact. Ce premier semestre, les exportations horlogères suisses accélèrent le retour à la normale. Avec presque 2 milliards de francs, elles ont dépassé de 12,5% le niveau de référence de 2019. Comparé à juin de l'année dernière, c'est une progression de 71%. La hausse enregistrée de juin est menée par les montres de plus de 500 francs. Le marché de l'exportation est donc en bonne progression après la crise de 2020. Les principaux contributeurs sont les États-Unis et la Chine. Leur niveau d'exportation a doublé comparé à 2019. Hong Kong connaît une hausse plus modeste alors que le Japon baisse dans l'exportation à cause de sa situation sanitaire. En Europe, l'Italie enregistre une surprenante augmentation tandis que la France, l'Allemagne et l'Espagne restent en dessous des niveaux de référence.
Et même si les perspectives s'éclaircissent pour l'horlogerie suisse, elle reste prudente. La marche des affaires est conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire et des mesures restrictives qu'elle pourrait imposer sur les différents marchés. La Suisse a enregistré 707 nouvelles infections au Covid ces dernières 24 heures. La barre des 1000 nouveaux cas par jour va être franchie ces prochains jours, justement. Une hausse qui préoccupe les experts de l'Office fédéral de la santé publique et de la Task Force. Ils l'ont exprimé cet après-midi à Berne et appellent à une vaccination plus importante encore que celle enregistrée jusqu'ici. La grande majorité des nouvelles infections concernent des jeunes qui ne développent pas de symptômes. L'augmentation du nombre de cas ne s'accompagne pas non plus, comme l'automne dernier, d'une hausse des hospitalisations et des décès. Mais la vice-présidente de la Task Force met en garde, attention aux interprétations hâtives. Samia Hurst.
On ne connaît pas à l'heure actuelle le rapport qu'il y aura entre les cas et les hospitalisations, quelle proportion de personnes vont avoir besoin d'être hospitalisées. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que le réservoir, si on veut, de personnes non immunes est préoccupant à l'heure actuelle. Si on regarde la population vaccinée en Angleterre, eh bien, chez les personnes âgées, ils ont atteint, avec des moyens différents de ceux qui ont été utilisés en Suisse, un taux de 98%. En Suisse, on est à environ 80%. Si on regarde combien de personnes ne sont pas encore vaccinées, eh bien on voit qu'on a à peu près 10 fois autant de personnes dans cette tranche d'âge qui pourraient à nouveau s'infecter. Et on sait que là, on a une proportion importante qui a besoin de l'hôpital. Lors des autres vagues, ça a été comme ça. On a d'abord eu une propagation chez les tranches d'âge des personnes jeunes et c'est ensuite arrivé aussi chez les personnes plus âgées. C'est donc probable que ça arrive également cette fois-ci.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Et puis, l'assurance invalidité a reçu entre janvier et mai de cette année 656 demandes de prestations de patients souffrant de Covid long, ce qui correspond à 3,1% des nouvelles requêtes. L'OFAS ignore si ce chiffre va augmenter rapidement ou se stabiliser. En France, la hausse du nombre de contaminations inquiète également le gouvernement. Il a grimpé sur les dernières 24 heures de 18 000 contre moins de 7 000 une semaine auparavant, une hausse qui est due, selon le ministre de la Santé, au variant Delta. Féminicide dans le canton de Chafouz. Un homme de 49 ans a tué son épouse âgée de 57 ans. Il a aussitôt contacté la police pour l'informer de son acte et s'est rendu. Les circonstances et les causes du meurtre font l'objet d'une enquête pénale. Le suspect n'était pas connu des services de police pour d'autres délits. La Belgique a observé une minute de silence en hommage aux victimes des inondations qui ont dévasté une partie du pays les 14 et 15 juillet. En Allemagne, où le bilan est encore plus lourd avec plus de 160 morts, la chancelière Angela Merkel s'est rendue à la mi-journée auprès des sinistrés d'une commune de Rhénanie du Nord-Westphalie.
Vous écoutez RTN, 18h14, place au sport.
Sport. Olivier Tolivet ne jouera pas avec le NUC en Liga féminine de football. La joueuse américaine a dû résilier son contrat avec le club de la Riveraine pour des raisons de santé. Elle souffre d'un syndrome au tibia de compartiment sévère qui n'est pas traitable. Le staff technique du NUC s'est d'ores et déjà mis au travail pour rechercher une autre attaquante diagonale. Le ski alpinisme fera son entrée dans le programme olympique lors des Jeux d'hiver de Milan 2026. Le CIO a pris cette décision à la demande des organisateurs italiens. Cet ajout ne peut que réjouir les pratiquants de cette discipline très prisée en Suisse. La neuchâteloise Marianne Faton figure parmi les meilleurs spécialistes du monde. Et puis le coup d'envoi de la rencontre de Coupe de Suisse entre le FC La Chaux-de-Fonds et Lugano a été fixé. Ce match entre le club de Première Ligue et la formation de Super League se tiendra vendredi 13 août au stade de la Charrière. Coup d'envoi 18h30.
Merci beaucoup Sarah. Et pour être totalement complet, on termine avec un point météo. Et qui pourrait se résumer à « il fait beau ». Tout simplement. Mais entre nous, on pourrait s'arrêter là pour parler de la météo de ces jours. Et ce, même si on a toujours quelques cumulus, mais on dira simplement qu'ils sont là pour mettre du relief au décor. Et la journée de demain sera sur la même dynamique, avec du soleil et de la chaleur. Enfin, pas plus qu'aujourd'hui, avec des températures entre 10 et 15 degrés le matin. Donc plus frais qu'aujourd'hui, mais jusqu'à 23 sur les hauteurs du canton et 27 à 28 degrés pour le littoral, la Broye et le Nord Vaudois au meilleur de la journée. Jeudi et vendredi nous apportera encore son lot de soleil et d'ambiance estivale. Avec l'arrivée d'un temps instable dès samedi, pouvant conduire à des averses et orages localement violents.